Donc Laurent Tessoka, directeur de l'Institut de droit d'outre-mer, institut qui relève de la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-en-Provence, Aix-Marseille et Troyes. Donc je suis enseignant en droit public. D'abord, je souhaite saluer et remercier les organisateurs de cette manifestation, d'une part sur l'objet même de cette manifestation, ça a été souligné, d'autant pour un universitaire spécialiste en droit de l'outre-mer, il y a peu d'occasions, en dehors des réunions justement organisées par les spécialistes, de pouvoir traiter des situations ultramarines. D'autre part, bien évidemment, je les remercie pour avoir pensé à l'Institut de droit d'outre-mer, pour essayer d'apporter notre petite pierre à vos réflexions. Alors, ma tâche ne va pas être évidente en une demi-heure, de vous dresser un panorama de l'outre-mer français. J'ai bien écouté avec attention ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs, et peut-être au cours du débat j'y reviendrai, notamment sur mon appréciation en termes juridiques de la réalité de certaines collectivités, en particulier la situation mahoraise que je connais bien aussi. Donc on pourra débattre de ce constat qu'ils ont fait qui est juste, mais qui, me semble-t-il, doit être replacé dans son contexte. Alors justement, l'outre-mer, les organisateurs ont pris soin de dresser une carte. Effectivement, bon, il manque Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais c'est 13 collectivités territoriales. 12, excusez-moi, pourquoi je dis 13, 12, parce qu'en fait j'ai compté l'îlot de Clipperton et les îles Éparses qui font l'objet d'un statut juridique particulier, donc on peut pas les considérer comme des collectivités territoriales à part entière. Donc 12 collectivités territoriales réparties sur l'ensemble du globe, avec ce qui permet notamment à la France d'avoir des zones économiques exclusives importantes dans certains océans, je pense en particulier à l'océan du Pacifique. Alors, la situation juridique, je vais essayer, peut-être dans le débat, de parler du contexte socio et culturel, parce que c'est très important. La situation juridique, le cadre institutionnel de ces collectivités territoriales, bien évidemment, a beaucoup évolué, en particulier depuis la révision constitutionnelle de 2003. L'idée, et on le voit au fur et à mesure de l'évolution institutionnelle, l'idée est la suivante, elle est toute simple, mettre en place des institutions adaptées à la réalité du terrain. C'est une grande évolution dans l'histoire juridique. Quelle est cette réalité? Une réalité géographique d'abord, dispersion, Tous ces territoires, toutes ces collectivités connaissent la situation insulaire, mis à part la Guyane, ce qui n'est pas rien. Donc les problèmes de transport, de coûts, de cheminement, on revient toujours à ces problèmes-là, quel que soit d'ailleurs le thème abordé. Toutes ces collectivités ont une histoire spécifique, un enracinement culturel fort, plus ou moins prononcé, garantie par la Constitution et par leurs textes, peut-être on y reviendra, la coutume, en particulier le statut de la coutume en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, la problématique du droit musulman à Mayotte, donc la coutume aussi en Guyane. Donc si vous voulez, toutes ces problématiques-là se retrouvent dans le cadre juridique, plus ou moins dans le cadre juridique que le législateur ou le constituant met en place pour ces collectivités. J'ajoute, dernier point avant de développer cet aspect juridique, les grosses difficultés économiques de ces collectivités. Ça a été souligné, ne serait-ce que mais les deux intervenants ont travaillé sur les quatre drones des départements et régions d'outre-mer et Mayotte, collectivité qui est désormais de l'article 73. Donc ces cinq collectivités qui connaissent des situations particulières, chacune, mais qui ont toutes des problèmes économiques. Mais on pourrait analyser la situation d'autres territoires, tels que la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie. La situation est aussi préoccupante. Donc, des statuts juridiques diversifiés et adaptés, plus ou moins, à cette réalité juridique, à cette réalité diversité institutionnelle et diversité des compétences. De plus, la situation se complique parce que le droit substantiel applicable, c'est-à-dire quelles sont les normes que l'on applique sur place, là aussi, il y a une diversité des situations. Ce qui fait que moi j'interviens assez régulièrement auprès de la magistrature. La grosse question que les magistrats se posent à chaque fois, c'est quel droit je dois appliquer sur place. Est-ce que j'applique le code civil, le code pénal, etc. Et effectivement, la question et la réponse n'est jamais simple. Donc diversité du cadre institutionnel et des compétences et diversité du droit substantiel, ce sont les deux points que je veux rapidement aborder. Et bien évidemment, j'essayerai au cours du débat de répondre à certaines problématiques, notamment socioculturelles. Alors, commençons rapidement, parce que peut-être vous avez tous conscience, ou vous connaissez déjà la situation juridique des collectivités de l'outre-mer français. Commençons par l'océan, l'arc Caraïbe, Antilles-Guyane. Bon, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les trois drômes, départements et régions d'outre-mer, que sont la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, bien sûr. Institutionnellement, nous avons les conseils généraux, ça a été souligné, et les conseils régionaux. La particularité de ces territoires à l'heure actuelle, c'est que c'est une situation monodépartementale. Un seul département. En termes de compétences, les compétences sont assez importantes, mais elles se chevauchent un peu entre les deux, ce qui pose aussi des problèmes. C'est la raison pour laquelle la loi organique du 27 juillet 2011 a prévu pour la Guyane et la Martinique une collectivité unique. Dès 2014, la mise en place d'une collectivité unique qui supplantera donc ce problème, le problème de chevauchement de deux collectivités territoriales différentes. Au niveau des compétences, ces collectivités uniques exerceront les compétences des deux précédentes. Il y a de fortes chances qu'elles aient quelques compétences élargies, comme d'ailleurs Mayotte, et quelques compétences retranchées. Je reviendrai sur la situation de Mayotte. La particularité aussi de ces collectivités, c'est qu'elles peuvent adopter des mesures qui relèvent du domaine législatif. En termes normatifs, ce sont les possibilités de l'article 73 qui permettent à ces collectivités, sous réserve d'habilitation, de pouvoir intervenir dans des matières qui relèvent normalement de l'État et de la loi en particulier. Mis à part une liste qui relève notamment en particulier des compétences régaliennes. Donc, ces collectivités ont des marges de manœuvre juridiques. Est-ce qu'elles ont des marges de manœuvre financières et pratiques? Ça, c'est une autre question. Mais le cadre juridique est là. Il est posé. Toujours dans cet espace anti-Guyane, nous avons bien évidemment maintenant Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Alors, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'était deux petites îles de la Guadeloupe, du nord de la Guadeloupe, et qui ont été transformées en collectivités territoriales à part entière avec la loi des CIOM, portant disposition, organisation et disposition institutionnelle relative à l'outre-mer de 2007. En deux mots, plus tard, dans le droit substantiel, je définirai. Ce sont des collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie de l'article 74. Donc, ces collectivités ont aussi des organes spécifiques. Conseil territorial, conseil exécutif. La particularité de ces collectivités, c'est qu'elles ont des compétences très importantes. Très importantes en termes fiscaux, en termes de logement, de tourisme, d'environnement. De plus, elle bénéficie aussi, comme les autres DROM, les départements et régions d'outre-mer que j'ai cités, de la possibilité de pouvoir adapter, sur habilitation, voire de déroger aux droits décidés par le législateur. Là encore, c'est une nouveauté. La loi a été un peu la loi de 2011, une loi organique aussi a été adoptée pour un peu assouplir les conditions de d'autorisation en matière de pouvoir d'adaptation. J'ajoute que pour Saint-Barthélemy, elle bénéficie, en tant que collectivité d'outre-mer dotée de l'autonomie, d'une compétence propre. Elle peut adopter des mesures en faveur de sa population. Des mesures qui concernent la propriété foncière, qu'on retrouve dans Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française. Pour ces mesures-là, ainsi que tous les actes que ces collectivités Saint-Barthélemy et Saint-Martin prennent dans les matières législatives, dans des compétences importantes, on appelle ça, enfin, c'est pas des lois du pays, mais ce sont des actes matériellement législatifs qui sont soumis au contrôle du Conseil d'État. Passons maintenant rapidement à l'océan Indien, la Réunion. Alors, la Réunion, situation classique d'un DROM, département et région d'outre-mer, avec une situation monodépartementale. La particularité de la Réunion, et ça a été souligné tout à l'heure dans leur discussion sur place, c'est que la Réunion a souhaité vraiment conserver le cadre de l'article 73 de la Constitution. Elle a refusé la possibilité d'adapter et de déroger aux normes législatives. Il y a des dispositions dans la Constitution qui concernent uniquement la Réunion et qui indiquent clairement qu'ils ne souhaitent pas aller sur ce terrain-là. Effectivement, la Réunion, plus que d'autres, peut-être, elle souhaite se rattacher, le lien à la France, on pourra en parler, ça revient à l'idée d'égalité de droits et des devoirs et les mêmes obligations de la métropole à leur égard, à cette idée de départementalisation, et d'où l'idée d'être accroché à ce statut-là, et au statut de l'article 73. En ce qui concerne Mayotte, vous le savez, jusqu'au 1er avril 2011, c'était une collectivité à statut spécifique, collectivité d'outre-mer, appelée département, collectivité départementale de Mayotte, et qui, par la volonté très nette de sa population, des Mahorais, a basculé au 1er avril 2011 dans la catégorie constitutionnelle, j'y reviendrai, de l'article 73, dans laquelle on trouve les départements et régions d'outre-mer, mais aussi ces nouvelles collectivités à statut particulier, mais qui veulent se soumettre au même régime juridique que la métropole. Ce qui veut dire que Mayotte n'est pas un DROM. Alors effectivement, c'est une collectivité régie par l'article 73, appelée département d'outre-mer. Appelée département. Mais ce n'est pas un DROM. Il ne faut pas confondre juridiquement, constitutionnellement, ça n'a rien à voir. Le terme de département a une importance, surtout sur place, effectivement. C'est une volonté réelle d'être accroché à cette idée d'assimilation, d'identification, notamment par rapport à la problématique vis-à-vis des communes. Mais juridiquement, ça n'a rien à voir. Alors, effectivement, d'un point de vue institutionnel, on retrouvera un conseil général avec un président, les organes classiques, que Mayotte avait déjà avant 2011. D'ailleurs, ce qui me permet de dire que la Guyane et la Martinique, à partir de 2014, ne seront plus des départements et régions d'outre-mer. Ce seront des collectivités spécifiques régies par l'article 73. Il ne restera plus que deux DROM, que deux départements, que deux DOM, départements et régions d'outre-mer, Guadeloupe et La Réunion. Donc au niveau des compétences, Mayotte exerce les compétences classiques d'un conseil général et régional, à l'exception de certaines compétences qu'elle n'a pas souhaité exercer, notamment pour des raisons économiques. Je pense en particulier à tout ce qui concerne l'enseignement, c'est-à-dire le collège, l'enseignement du second degré. Mayotte n'a pas les moyens, on y reviendra. Il y a un gros souci en termes de ressources. Rapidement, les collectivités françaises du Pacifique. Commençons par la plus étendue, la Polynésie française. 118 îles et îlots répartis sur un ensemble maritime aussi grand que l'Europe, ça, on le dit souvent, mais c'est une réalité, ça pose de vrais problèmes, je pense que ce sera abordé, de vrais problèmes pratiques aussi. Une population étendue, mais essentiellement concentrée sur l'île de Tahiti, et en particulier l'agglomération de Papeete. Alors, la Polynésie française a un statut totalement à la carte aussi, fait sur mesure, qui relève de plusieurs lois, en particulier la loi de 2004, la loi organique de 2004, qui a été un peu modifiée par la loi de 2007. Statut spécifique, nous avons une assemblée délibérante, qu'on appelle l'Assemblée de la Polynésie française. Il y a un gouvernement, c'est cette assemblée qui élit le gouvernement. Et vous avez surtout le président. Alors le président est issu des rangs de l'assemblée, et c'est le président qui compose le gouvernement et qui nomme. Hein, j'ai dit que l'assemblée nommée, Élysée, c'est une petite erreur, c'est par rapport à la Nouvelle-Calédonie, ça se passe comme ça. Mais donc c'est le président qui nomme les membres qui ont le rang de ministre, hein, qui s'appelle ministre, du Conseil des ministres, qui peut avoir jusqu'à 15 membres. Donc l'essentiel des compétences en Polynésie française appartiennent à la collectivité de Polynésie française. C'est-à-dire que la compétence de droit commun appartient à la Polynésie française. Et l'État ne conserve que des compétences qui figurent sur une liste énumérée, précisément énumérative, essentiellement des compétences en matière de police, en matière d'enseignement. Mais la Polynésie, donc tout ce qui n'appartient pas à l'État de manière précise appartient à la Polynésie française, mais au-delà de ce grand champ de compétences, la Polynésie française peut aussi intervenir à titre de participation ou d'association avec les compétences que détient l'État, notamment en matière d'enseignement. J'y reviendrai peut-être que ce sera abordé. Donc, vous voyez bien que la Polynésie française dispose de très larges compétences, qu'elle exerce notamment par la possibilité d'adopter ce qu'on appelle des lois du pays. Alors, les lois du pays, contrairement à leur appellation, ça n'a rien à voir avec les lois du pays de Nouvelle-Calédonie. Ce sont simplement des actes réglementaires que pourrait prendre le maire de Lyon, etc., et qui sont soumis particulièrement, qui interviennent quand même dans des matières législatives qui sont réservées normalement à la loi, impôts, etc., droit fiscal, certaines procédures, je ne vais pas vous faire la liste, mais qui relèvent, en cas de contentieux, directement devant le Conseil d'État. Voilà, c'est une particularité que la Constitution a consacrée dans l'article 74. Compétence importante pour la Polynésie française. Statut, compétence aussi importante pour Wallis et Futuna. Wallis et Futuna, situation assez paradoxale de ce territoire qui est le plus éloigné de la métropole, au niveau de kilomètres, d'être aussi le territoire le plus, j'allais dire, centralisé. C'est l'administrateur supérieur qui est à la fois le représentant de la collectivité et de l'État. Donc c'est lui qui préside le conseil territorial, composé de 7 membres. Hein. Donc vous avez l'administrateur. L'administrateur nomme 3 membres, et les 3 membres de droit, ce sont les 3 chefs, les 3 rois traditionnels, auxquels on a reconnu un statut juridique, hein, puisqu'ils interviennent en tant que représentants de notamment la coutume, ils ont un pouvoir reconnu, et ils sont à cet égard rétribués par la République pour ce faire. Hein. Donc, vous avez aussi une assemblée territoriale qui a quasiment peu de compétences. Hein. Donc c'est une situation assez paradoxale où cette collectivité qui est la plus éloignée, en même temps la plus centralisée, si j'ose dire, ou déconcentrée, si on pourrait faire vraiment du droit, et et les compétences sont assez importantes, même si les compétences sont assez importantes. Enfin, dernier territoire du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, statut totalement dérogatoire, puisque la Nouvelle-Calédonie fait l'objet d'un titre spécifique dans la Constitution, titre 13. C'est une collectivité sui generis à statut constitutionnel. Qui, cela tient bien évidemment à l'histoire de ce territoire, hein. Peut-être on y reviendra. Je vois qu'il y a le représentant de l'université de Nouvelle-Calédonie, enfin des bibliothèques. Donc, d'un point de vue institutionnel, donc, la Nouvelle-Calédonie, c'est l'accord à l'heure actuelle, le régime juridique résulte de l'accord de Nouméa qui a été constitutionnalisé, accord de Nouméa de 1998, et de la loi organique du 19 mars 1999. Alors, comment ça se passe d'un point de vue institutionnel et au niveau des compétences? C'est assez simple. La Nouvelle-Calédonie donc a été divisée en trois provinces, qui sont des collectivités territoriales. Donc, vous avez peut-être donc le Gros Caillou, et donc qui est divisé en deux, province nord, province sud, et vous avez les îles Loyauté, c'est la province des îles. Donc, trois provinces qui ont leur assemblée délibérante, comme toute collectivité, et un exécutif. Et l'assemblée délibérante réunie de ces trois provinces constitue ce qu'on appelle le Congrès, qui lui s'occupe des compétences pour l'ensemble du territoire. Et en particulier, l'une des compétences la plus remarquable de la Nouvelle-Calédonie, c'est la possibilité d'adopter des lois du pays, mais qui ont cette fois-ci valeur de loi. C'est-à-dire qu'elles ne sont soumises qu'au contrôle du juge constitutionnel. C'est une compétence importante, ce qui a notamment nécessité la révision de la Constitution, puisque à part le Parlement, les seuls organes habilités à adopter les lois, il n'y en avait pas d'autres. Donc, vous avez la Nouvelle-Calédonie dispose, et notamment l'article 99 de la loi de 99, toute une liste de matières spécifiques dans lesquelles elle peut adopter des lois du pays. En matière fiscale notamment, enfin, il y a beaucoup de domaines. Limitativement énumérés quand même. Au niveau des compétences, donc, compétences législatives, compétences très importantes. Donc, je termine au niveau des organes. Vous avez un gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est un gouvernement collégial qui est élu au scrutin proportionnel. Et vous avez un président du gouvernement qui est élu par les membres du gouvernement. Donc, scrutin proportionnel et gouvernement collégial qui permet d'avoir à chaque fois, c'est une garantie de l'accord de Nouméa, des indépendantistes et non-indépendantistes. Voilà. Pourquoi? Parce que la logique, et vous le savez peut-être, sans doute, c'est que la logique, c'est un transfert irréversible, dit l'accord de Nouméa, et progressif de compétences. Des seules compétences qui restent à l'État. Voilà, parce que, par principe, toutes les compétences qui n'appartiennent pas à l'État sur une liste appartiennent à la Nouvelle-Calédonie, en particulier aux provinces. Et il est prévu, et ça s'est réalisé progressivement, un transfert de compétences par période de mandat du Congrès, qui est de mandat qui dure 5 ans. Notamment en matière d'enseignement. L'enseignement primaire et secondaire ont été transférés. Il y a débat sur l'enseignement supérieur, la sécurité civile, le droit civil, enfin, vous voyez, toutes ces matières importantes qui sont progressivement transférées. Droit commercial qui a été transféré, enfin, toutes ces matières-là qui font l'objet d'un transfert progressif. Quelle est l'idée? C'est à partir de 2014, vous le savez peut-être, le Congo aura la possibilité de demander, de poser la question, est-ce que oui ou non, souhaitez-vous transférer les dernières compétences de souveraineté, c'est-à-dire souhaitez-vous ou non l'indépendance. Voilà. Donc c'est entre 2014 et 2019. Et donc vous voyez, le statut de la Nouvelle-Calédonie s'explique par ce processus d'irréversible dans l'accord de Nouméa, d'autodétermination, si j'ose dire. il n'y a rien, rien d'autre n'est prévu pour l'instant. Donc si c'est un oui, c'est transfert des dernières compétences régaliennes, police, justice, défense, et bon, indépendance. Si c'est non, ben là, il faudra réfléchir à un nouveau statut, puisque de toute façon, comme les compétences transférées sont irréversibles, qu'est-ce qu'on va faire des compétences transférées? On ne peut pas revenir à une petite région, un petit département, excusez-moi le terme, c'est pas péjoratif, mais une collectivité, même les Néo-Calédoniens le prendraient mal. Donc il faudra inventer autre chose si c'est non. Enfin, est-ce que je vous parle, des TAF, Terres australes et antarctiques françaises, on va quitter le champ, on descend tout à fait. Bon, il n'y a pas de population permanente, donc il n'y a pas de problématique en termes de bibliothèque. Je crois que les 500 chercheurs sur place ont leur propre ouvrage, je pense, leur sorte de documentation. Juste une petite précision juridique, les TAF, les Terres australes et antarctiques françaises, c'est le dernier tome, Territoire d'outre-mer, qui a un statut législatif. Avant, je vais en parler, on disait DOM-TOM. Ça n'existe plus, maintenant c'est DOM-COM, département DROM-COM. Et il reste TOM, territoire d'outre-mer, mais un statut législatif. C'est-à-dire pas grand chose. Voilà. Enfin, Saint-Pierre-et-Miquelon, un peu plus intéressant pour les bibliothécaires. Collectivité territoriale spécifique aussi. Avec un conseil territorial, un président et un conseil exécutif. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences classiques d'un conseil général et régional réuni, à l'exception de celles relatives aux bibliothèques et bibliothèques de prédépartementales. C'est quand même pas rien, puisqu'ils n'ont pas souhaité prendre cette compétence-là. C'est l'État qui doit s'en charger. Le financement, à l'exception aussi des financements des moyens de services d'incendie et de secours. Voilà, peut-être que Mayotte aurait pu négocier dans son statut des exceptions pareilles, à part le collège, ce qui éviterait le problème économique que l'on connaît. Est-ce que j'ai le temps de parler des régimes juridiques en une minute ou pas? Oui. J'essaie d'être assez exhaustif, alors des fois il y a du petit... tout en laissant assez bref. En termes de régime applicable, il y a, grosso modo... Avant, on avait une règle facile, c'était les DOM et les TOM. Les DOM, c'était le droit national, les TOM, c'était pas le droit national, c'est-à-dire le principe de spécialité législative. La loi ne s'appliquait que sur mention express. Tout ça n'existe plus depuis la révision constitutionnelle. On a les départements d'outre-mer, départements et régions d'outre-mer. Le principe demeure l'identité législative. Les mêmes lois s'appliquent, les mêmes lois règlements s'appliquent. Sauf que, il peut y avoir des adaptations. Et c'est prévu, soit par le législateur, c'est un droit qui peut être adapté au niveau sur place, soit par les collectivités elles-mêmes. Au niveau des COM, maintenant, la catégorie constitutionnelle des collectivités d'outre-mer de l'article 74, c'est-à-dire toutes les autres, sauf la Nouvelle-Calédonie et les TAF, alors, nous verrons... un régime à la carte, c'est-à-dire qu'il faut regarder le statut de chaque collectivité pour voir si c'est l'adaptation ou la spécialité. Par exemple, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, ce sont des collectivités d'outre-mer. Le principe, c'est que les lois et les règlements nationaux s'appliquent de plein droit, à l'exception d'une certaine liste de matières qui relèvent de la compétence de la collectivité. D'accord ? À l'inverse, pour la Nouvelle-Calédonie, ou pour Wallis et Futuna, c'est le principe de spécialité. C'est-à-dire que les lois et règlements nationaux ne s'y appliquent pas par principe, il faut une mention express. En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie classique, une collectivité territoriale à statut constitutionnel sui generis, bien évidemment, les lois ne s'appliquent pas de plein droit, c'est, on peut dire, le principe de spécialité. Voilà, grosso modo, le régime d'applicabilité des normes sur ces territoires. Peut-être, si ça vous intéresse, je vous parlerai des normes européennes et des normes internationales, où là, la problématique aussi un peu plus ardue. Voilà, j'espère avoir été suffisamment exhaustif, enfin assez clair surtout, pour avoir un peu présenté dans le temps qui m'était imparti, un panorama juridique et institutionnel des 12 collectivités de l'Outre-mer et de la 13e qui n'est pas une collectivité, mais qui sont les îlots éparses et Quiberton.